Matière à penser, Patrick Boucheron.
Bonsoir, première émission de la semaine consacrée à poésie et histoire. La poésie et l'histoire, et pas simplement la poésie qui nous fait sortir de l'histoire, qui nous console de l'histoire, et pas seulement même la poétique de l'histoire. Non, une manière au fond de penser, de parler différemment des rapports entre littérature et histoire. Et pour commencer à en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir à ce micro l'une des grandes voix qui, justement, comme historienne, a noué ces nouvelles alliances entre histoire et littérature, Mona Ozouf. Bonsoir Mona Ozouf.
Bonsoir Patrick Boucheron.
Ben vous protestiez, ben oui c'est vrai, ça fait des années au fond que vous êtes une des premières à avoir ramené la littérature dans justement le giron de l'historienne.
Oui mais j'ai peur que ce ne soit pas un projet théorique, c'est simplement voilà, la réalisation d'un goût et d'un vieil intérêt.
Alors c'est d'un goût dont on va parler, effectivement, un goût ancien qui s'est progressivement, au fond, révélé à lui-même, le rapport entre vous et George Eliot.
Oh, ça, c'est un goût très ancien, parce que Eliot est apparu dans ma vie à plusieurs moments, avec des épisodes un peu différents, mais l'épisode fondamental a été l'injonction, mais non, je n'ose même pas dire injonction, ce n'est pas le mot qui convient, mais la suggestion d'un de mes professeurs de français en classe de troisième, qui était d'ailleurs la femme de Louis Guillou.
René Guillou.
René Guillou, et qui avait dit aux adolescentes que nous étions qu'une des littératures les plus amicales à leur âge, les plus propres à leur faire comprendre les tourments, les inquiétudes du jeune âge, de l'adolescence, était la littérature anglaise et très spécialement une romancière, et parmi les œuvres de cette romancière, une œuvre en particulier, qui était Le Moulin sur la Flosse, et qui effectivement décrit, je crois, l'enfance d'une manière tout à fait extraordinaire.
Donc vous entendez ça, Mona Ozouf, vous avez 14 ans. René Guillou doit vous dire c'est de la littérature pour jeunes filles sans doute, elle dit quelque chose comme ça, enfin,
oui.
En tout cas qui est propre, qui est accueillante,
qui est accueillante aux jeunes filles. Du reste, Louis et elle avaient traduit un roman de Margaret Kennedy qui s'appelle La nymphe au cœur fidèle, en tout cas c'est la traduction française, et ils avaient traduit ensemble, ils avaient un goût pour cette littérature, et il est vrai qu'elle est elle permet l'identification, mais l'identification sans aucune niaiserie.
Alors,
parce que la description de l'enfance n'est pas une description idyllique, mais une description cruelle. On comprend aussi les chagrins de l'enfance.
Et Le Moulin de la Flosse, c'est un des grands romans de l'enfance de George Eliot.
Qui est un classique anglais d'ailleurs, qui est méconnu en France, mais qui est presque inconnu en France désormais, mais qui est un des grands classiques de la littérature pour adolescents.
Mais parlons de cette grande et belle figure d'éveilleuse, René Guillou. Il y a une magnifique photo dans le cahier iconographique du Quarto que vous avez composé, c'est votre mot, Mona Ozouf, en 2015, de Révolution en République, les chemins de la France. C'est votre éveilleuse d'une certaine manière.
Oui, enfin, j'ai eu une chance inouïe dans cet obscur collège breton où je faisais mes études, qui était d'avoir de merveilleux professeurs de français. Pas seulement René, mais d'autres aussi. Mais René avait comme caractéristique d'être extrêmement digressive et de faire terminer ses cours sur d'autres rivages que ceux sur lesquels nous nous étions embarqués au début. Et en nous conseillant des lectures, nous conseillant vivement des lectures, et en nous ouvrant l'esprit sur des domaines qui étaient hors du programme. Du reste, elle avait commencé cela avec ma mère. Elle avait eu ma mère comme élève à l'école normale d'institutrice de Saint-Brieuc. Et c'est à cause d'elle que la bibliothèque de la famille était pleine des romans russes et des romans anglais. Il y avait Il y avait Tolstoï, il y avait Tchekhov, il y avait Dickens chez moi. Et ça, c'était l'héritage de René Guillou auprès de ma mère, enfin légué à ma mère.
Alors que la bibliothèque de votre père, dont aussi vous donnez une photo dans le quarto, était beaucoup plus strictement spécialisée, architecturée, j'allais dire, parce que c'était un meuble.
Architecturée autour de... D'abord, elle était un meuble. Oui, un meuble avec des entrelacs irlandais, lui-même assez spécifique. Et elle était vouée à la connaissance, j'allais dire à l'adoration, mais disons à la connaissance de la Bretagne sous tous ses aspects. Et aussi quand même... Et quand même aussi à la présence de nos cousins d'outre-Manche, c'est-à-dire la mythologie galloise, la poésie irlandaise. Et tout ça était dans la bibliothèque paternelle.
Voici,
celle de ma mère était vouée à ses romans anglais et russes.
Voici un garçon, 13 ans, 14 peut-être, acrobatiquement perché un jour d'ennui sur un escabeau devant la bibliothèque familiale. Sur un rayon peu fréquenté, il atteint un livre poussiéreux, l'ouvre au hasard et reçoit l'illumination qui va décider de sa vie. Jusque-là, pleine d'élan incertain. C'est le début de votre livre « L'autre Georges » à la rencontre de Georges Eliot que vous publiez chez Gallimard, Mona Ozouf. C'est une affaire de bibliothèque et c'est une affaire de hasard parce que ça aurait pu être un peu plus haut, un peu plus bas, à droite, à gauche. C'est tombé sur Georges Eliot.
Oui, c'est une rencontre. C'est ce qu'elle décrit, la rencontre d'un adolescent avec ce qui va faire le cœur de sa vie, c'est-à-dire la vocation médicale. Voilà. Et après tout, c'est aussi beaucoup ainsi que nous construisons nos vies. Donc cette première scène est pour moi emblématique à la fois du roman d'Eliot, des romans d'Eliot, à la fois aussi d'une certaine façon de mes intérêts, de la manière dont se sont éveillés mes intérêts et mes goûts.
Et puis aussi en tant qu'historienne de l'école républicaine que vous avez chantée, mais que vous avez aussi strictement étudiée comme historienne de la Révolution française, vous dites souvent au fond, pourquoi un cadre aussi austère, vous l'écrivez quelque part, pourquoi un cadre aussi austère que celui de l'école communale a pu ouvrir à tant de liberté? Ben, peut-être justement parce que il était ouvert à la nature.
D'une part, elle est grande ouverte à la nature, parce que la notation du temps qu'il fait, du changement des saisons, comptait beaucoup dans ces écoles rurales. Et puis, j'ai presque envie de dire, paradoxalement, parce que l'époque était si pauvre en images, que l'imagination en était doublement sollicitée. Et je pense que notre époque, à nous, enfin l'époque des jeunes d'aujourd'hui, qui est assaillie à la fois d'images et de bruits, n'est pas forcément favorable au vagabondage imaginaire. Et en tout cas, la mienne l'était parce qu'elle n'avait rien d'autre. C'était une enfance très, très solitaire, très claustrale, entre deux femmes qui étaient l'une, ma mère, ensevelie dans le chagrin, et l'autre, ma grand-mère, pour qui l'univers des livres était la distraction incompréhensible, arrachée aux nécessités de la vie. Donc cette enfance avait cette couleur austère. Du coup, les livres, pour ce type d'enfant ou d'adolescent, est la ressource absolue.
J'ai lu le début du livre, je vais lire la presque fin. Elle avait dit que pour connaître les êtres, il faudrait pouvoir deviner chez chacun les vastes territoires non cartographiés. Pour avoir beaucoup fréquenté les mythes grecs et la Bible, elle savait que l'esprit ne peut tout atteindre, qu'il lui reste à dessiner toute une géographie énigmatique, confins ignorés, lisières incertaines, contrées nocturnes, inquiétantes étendues laissées en friche. Donc pour vous, Mona Ozouf, les aveux du roman, je reprends le titre d'un de vos beaux livres, et, ou en tout cas ce que peut la littérature pour une jeune fille comme vous qui découvrez la possibilité d'être libre, c'est de lire dans votre vie ces contrées incertaines et inexplorées.
Oui, et du reste, vous évoquez les aveux du roman, il y a une différence entre la perspective des aveux du roman et ce que j'évoque dans cette conclusion de Georges Eliot. Parce que dans les aveux du roman, il s'agissait de comprendre comment la littérature française du XIXe siècle digère l'immense événement qu'est la Révolution française. Oui. L'interprète et le digère, l'absorbe différemment, selon qu'on refuse totalement l'héritage, ce qui est le cas de Barbet, par exemple, qu'on l'accepte, ce qui est le cas de George Sand, ou que, exemple le plus intéressant sans doute, on essaie une sorte de transaction avec ce qui reste de l'Ancien Régime et ce qui est né de la Révolution. Et là, on peut avoir tous les cas de figure possibles entre Stendhal, Balzac, Anatole France, etc. Donc, dans les aveux du roman, l'objectif est quand même une certaine compréhension de l'histoire du XIXe siècle à travers la matière romanesque. Ce qu'évoque la fin d'Eliot est un peu différent. C'est qu'il y a dans le roman quelque chose qui se distingue de l'entreprise de l'historien ou de l'histoire, c'est que on quitte le livre en approfondissant l'ombre, oui, et le mystère, plus qu'en chassant, ou en tout cas en réduisant. Le but de l'historien, c'est de réduire la part du mystère. Là, dans le roman, il arrive qu'on quitte le roman dans une indétermination plus grande que celle avec laquelle on l'avait ouvert, mais qui, du coup, ouvre à l'imagination d'autres chemins ou d'autres perspectives. Je crois que là est la différence.
Là est la différence.
En tout cas, c'est pas tout à fait la même chose. Les aveux du roman, l'histoire du XIXe siècle reste l'horizon fondamental.
Et puis vous aviez écrit aussi ce livre sur Henry James. C'est un livre un peu... Vous dites que c'est votre livre préféré parce que c'est celui qui a été le moins compris.
Ben, le moins lu. D'abord, le moins lu, le moins compris, bon, c'était en effet une extravagance, mais liée à un goût ancien. Et ce que j'aime, c'est chez James, ce sont ces fins indéterminées. C'est l'indétermination sur laquelle on ferme le roman, qui est une indétermination un peu agaçante. On y revient constamment, un peu comme une dent cariée que l'on titille. Mais ça ouvre aussi la possibilité de réécrire l'histoire autrement, d'imaginer d'autres fins, de se demander aussi si on a bien interprété le personnage, ce que James a finalement voulu dire. Et ça, chez James, c'est inépuisable.
Comme est inépuisable, d'ailleurs, sa lecture, puisque vous dites, dans le dernier numéro, le premier, je dis que c'est le dernier, mais c'est le premier numéro de Zadig, la nouvelle revue que vous lisez et relisez sans cesse... Henry, oui, James, les mêmes scènes, non, oui, pour vous consoler, mais justement pour pleurer au même moment.
Oui, il y a quelques scènes de James qu'effectivement je relis sans cesse. Je relis par exemple dans Les ailes de la colombe, la série de contrats, oui, passés entre les amoureux, une série de 3 ou 4 contrats, série qui finit par tuer l'amour entre eux. Comment le contrat tue l'amour ? C'est décliné par James en 3 ou 4 épisodes très précis. Cette mécanique du contrat assassin de l'amour, James a décrit comme personne. On peut relire ça sans cesse et je pense qu'on peut s'y instruire sans cesse. Et puis, dans Portrait de femme, je crois que c'est la scène que j'évoque dans ce numéro de Zadig, il y a une scène déchirante à la fin d'agonie entre l'héroïne et le cousin qui est amoureux d'elle depuis toujours. C'est la scène d'agonie, mais c'est la scène où, enfin, ils se rencontrent, ils, oui, se comprennent. C'est une scène de confiance réciproque. Et si on admet que la confiance réciproque est la merveille des existences, ce que je crois, c'est à la fois une scène qui fait pleurer et qui réconforte.
Et qui réconforte. Ce qui est effectivement la puissance consolatrice, oui, oui, de la littérature, à la rencontre de laquelle, Mona Ozouf, vous ne cessez d'aller, l'autre Georges, à la rencontre de Georges Eliot, paru chez Gallimard. Bah, c'est aussi un portrait de femme et, oui, un portrait d'une grande bravoure, hein, qui, de manière crâne, affronte la mauvaise réputation et même plus que ça, l'ostracisme.
Oh, mais vous avez tout à fait raison, Patrick Boucheron. C'est une héroïne du courage et du savoir aussi en même temps, parce que il faut dire ce qu'on ne sait pas, parce que Eliot est désormais en France très méconnu, mais c'est un grand esprit. C'est une jeune personne qui, à 23 ans, traduit la vie de Jésus de Strauss, cette vie de Jésus à laquelle répondra plus tard Renan, qui entreprend donc de traduire aussi Spinoza du latin en anglais, et qui a une curiosité encyclopédique, un appétit de savoir, qui est quadrilingue. Bon, bref. Donc c'est un grand esprit qui découvre sa vocation romanesque sur le tard. Donc il y a d'abord j'ai une grande admiration pour sa force conceptuelle. J'ai aussi une grande admiration pour son courage d'existence, parce que elle était très peu faite pour une vie de rupture. C'était une jeune femme passionnément attachée à ses entours, à sa famille, à son lieu, à ses paysages.
À ses manières, comme vous dites souvent.
Oui, à ses manières. Et elle commence par rompre très douloureusement avec son père, parce qu'elle a perdu la foi évangélique de sa jeunesse. À force de lire la critique des textes sacrés par les Allemands, parce qu'elle est très germanophile et faune à la fois, elle a perdu la foi, enfin en tout cas cette foi, elle n'a pas perdu toute idée de surplomb de l'existence par quelque chose, mais enfin elle a perdu la foi, donc elle ne peut plus, dit-elle, pense-t-elle, accompagner son père aux offices. Et du coup, le père prend ça très brutalement. Pour lui, c'est l'annonce qu'il ne pourra pas marier sa fille, que cette fille le déshonore lui-même et toute la famille. Et de là, une série de scènes très pénibles où on expédie à la jeune femme quantité d'ecclésiastiques, mais elle est plus savante qu'eux, généralement. Oui. Et le frère qui rompt avec elle, c'est une première rupture, et cette rupture ira s'aggravant. Donc, premier épisode de rupture avec tout ce qu'elle aime.
Et d'ailleurs, pardon de vous interrompre, Mona Ozouf, mais cette question-là vous intéresse aussi comme historienne, parce oui. que ce qui plane sur l'œuvre de George Eliot, c'est cette question, quelle morale dans un monde désenchanté qui s'est...
Un monde déserté par l'existence, mais qui est la question même du 19e siècle, tout entier. C'est pas seulement la question d'Eliot, mais elle la vit avec la radicalité, l'intensité qui est dans sa nature. Et deuxième rupture, qui est cette fois encore beaucoup plus grave dans l'époque victorienne où elle est, elle, après quelques déboires amoureux, elle s'éprend d'un journaliste de la Westminster Review où elle travaille, où elle écrit des articles d'ailleurs tout à fait savants. Elle s'éprend de lui, lui ne peut pas divorcer, il est dûment marié. Il a reconnu l'enfant adultérin que sa femme a fait avec son meilleur ami, circonstance aggravante. Et en homme généreux, il entretient tout ce monde et il ne peut plus divorcer. Donc il faut bien vivre dans l'illégalité, et ils rendent cette illégalité officielle en partant ensemble en voyage en Allemagne. Donc, mais quand ils reviennent, c'est pour affronter l'ostracisme social. Un ostracisme social qui va très loin, parce que les amis s'entrécrivent pour s'avertir que s'ils s'avisent de recevoir chez eux cette femme qui est devenue une femme tombée, ils vont déshonorer les femmes de leur famille, et même allons plus loin, le sexe féminin tout entier. Donc c'est très très pénible à vivre pour quelqu'un qui aime autant, qui est si attaché à ses amis, à ses fidélités.
Pourtant, George Eliot a une vie moins chahutée sur le plan amoureux que l'autre George, George Sand. À ce micro même, je recevais Michel Pirot pour ma première émission. Et évidemment, George Eliot, qui, on l'a compris en vous écoutant, Mona Ozouf, est tout sauf une révolutionnaire, choisit évidemment ce prénom masculin comme nom de plume, en pleine conscience du fait que George Sand, très mal vu quand même en Angleterre.
Très connu et très mal vu. Extrêmement connu. L'écrivain français sûrement le plus lu en Angleterre, mais avec une réputation de femme sulfureuse. La femme de Carlyle, par exemple, n'emprunte un roman de George Sand à la bibliothèque que sous un faux nom. Mais chez Eliot, il y a une admiration passionnée pour George Sand. Là aussi, c'est très étonnant pour cette, allons-y, jeune fille rangée,
oui.
qui était George Eliot. Cette jeune fille rangée s'était prise des œuvres de Sand comme celle qui était capable de faire vivre et de faire connaître à ses lecteurs ce que c'est vraiment que la passion. Et elle avait énormément lu. Elle est la cadette de Sand, d'une vingtaine d'années à peu près, et elle avait lu, je parle d'Eliot, à 20 ans, déjà presque une quinzaine de romans de l'écrivain prolifique qui était notre George à nous, et elle prévenait ses amis, attention, ne dites pas du mal de ce qui est devenu My Divinity. Donc, le choix du prénom masculin a le même sens que chez Sand, c'est-à-dire protéger son œuvre du jugement généralement circonspect, parfois complaisant, mais un peu condescendant, qu'on montre aux ouvrages de dames, ça le motif est le même, et le choix du prénom est à la fois un hommage à George Sand et aussi un clin d'œil à l'homme qu'elle aime.
Matière à penser, Patrick Boucheron.
Pourquoi ne puis-je te haïr ? C'est dans la somnambule, hein, et d'une certaine manière, nous sommes encore dans George Eliot, Mona Ozouf.
Oui, George Eliot aimait beaucoup la musique. La plupart de ses personnages positifs sont sensibles à la musique, et quelques-unes des scènes les plus charmantes de l'œuvre sont les scènes où le héros fait sa cour en chantant. Et cet air de Bellini, « Ah, pourquoi ne puis-je te haïr ?» est mis dans la bouche d'un des amoureux de Maggie dans Le Moulin sur la Flosse. Voilà, donc à plusieurs reprises, Eliot cite des airs qui sont capables d'emporter celui qui les écoute vers les contrées apaisantes ou excitantes, les deux.
Le Moulin sur la Flosse et l'Emprise du Passé, c'est l'un des titres de chapitre de votre livre, Mona Ozouf, L'autre George à la rencontre de George Eliot, qui n'est pas une biographie, qui n'est pas non plus de la critique littéraire. Où est-ce que vous avez placé votre regard d'historienne dans ce livre? On comprend que c'est aussi l'histoire d'une rencontre entre vous-même et cette œuvre, de ce que cette œuvre peut faire à différents âges de lecteurs et de lectrices. Mais vous faites aussi œuvre d'historienne dans ce livre. Où est-ce que ça se situe, au fond, votre travail?
Oui, j'aurais peut-être un peu de mal à dire que c'est une œuvre d'historienne, bien que l'histoire soit présente. Une des choses qui m'ont beaucoup intéressée chez Eliot, c'est qu'on la sent au bord d'un monde très difficile à définir et à déchiffrer, une nouvelle époque. C'est l'avènement de l'Angleterre industrielle, c'est la fin d'une certaine Angleterre rurale, au paysage verdoyant et semble-t-il immuable, et qui tout d'un coup se transforme sous la poussée industrielle. Et tout en est changé. Tout en est changé, et là, c'est quelque chose qui nous fait d'une certaine manière penser à notre époque, à nous, où nous aussi nous sommes au bord d'un monde que nous avons beaucoup de mal à percevoir et à imaginer, et qui est une révolution de même ampleur, ou même peut-être de plus grande ampleur, mais enfin, où les gens ont du mal à se reconnaître. C'est un monde de la perte des emplois, pour les ruraux qui tout d'un coup sont exilés des territoires où l'on peut s'enrichir. C'est un monde où la noblesse rurale, où la gentry, perchée sur ses collines, voit son statut peut-être pas disparaître, mais en tout cas perdre de ses privilèges énormes. Il y a chez Eliot une classe montante et une classe descendante. La classe descendante, c'est la gentry. La classe montante, c'est la petite bourgeoisie du commerce et des affaires. Donc, on voit apparaître dans ces livres des professions qui, jusque-là, étaient inédites. Le journaliste, par exemple. Bon, on voit aussi que la parole du commerçant prospère devient presque plus prophétique que la parole de l'aristocrate. Tout ce monde est en train de basculer. Et ce qu'Eliot montre merveilleusement, parce que ça, elle ne l'explicite évidemment pas, mais elle le montre dans la description du paysage. C'est une merveilleuse peintre.
Oui, elle excelle dans l'art de la description.
Elle excelle dans l'art de la description.
Et une prose poétique. On ne parle que de ses romans, mais elle est aussi poète,
oui,
George
Eliot. Oui, c'est d'ailleurs un mélange très étonnant, et c'est pourquoi elle est quand même un personnage tout à fait fascinant. C'est qu'elle est à la fois, elle a une prose poétique, et à deux pages de là, c'est une analyste conceptuelle.
Oui, implacable de rigueur.
Oui, et c'est très étrange. Et du reste, on peut se demander comment on peut arriver à la lire en passant de ce registre à un autre. Et il faudrait ajouter que si on passe sans problème, enfin du moins, moi, je n'ai aucun problème, d'un registre à l'autre, c'est aussi qu'elle a un merveilleux talent de conteuse. Et que tout ça est pris dans un récit foisonnant, entraînant, et où on tourne les pages avec l'appétence de savoir ce que les héros vont devenir. Donc, il y a tout ça à la fois chez elle.
Elle est peut-être, au fond, l'héritière du temps d'avant le roman naturaliste où le genre romanesque désignait son indistinction de genre, si j'ose dire. C'est-à-dire, au fond, dans cette grande tradition européenne, Milan
oui,
Kundera.
Oui, mais une tradition qui est, qui va bientôt s'éteindre parce qu'elle va bientôt être en but à un roman plus formaliste où le récit comptera beaucoup moins. De Flaubert, dans une lettre à Louise Collet, dit « Il va falloir que je fasse un récit et j'ai horreur de faire un récit. » Et il aborde la période du récit, d'un paysage, etc., avec, presque dégoût. Et on voit poindre aussi, très vite, avec Flaubert, l'idée que le romancier n'a pas droit à la parole dans son roman. Là encore, Flaubert, le romancier doit être dans son roman, je crois qu'il dit plutôt l'écrivain, mais enfin, peu importe, comme est Dieu dans la création, oui. Partout présent, mais partout invisible, mais toujours invisible. Or, Eliot est grandement visible. Elle arrive sur la scène du roman pour donner ses commentaires. C'est ce qui est devenu, à un certain moment, presque inécoutable dans la littérature. Qui peut apparaître. Moi, je continue à penser qu'on ne fait de la littérature et même de l'histoire qu'en racontant.
Voilà.
Donc je suis,
Et en composant un récit digressif ou.
Oui, enfin, les digressions sont peut-être plus acceptables dans le roman que dans l'histoire. Je ne dis pas que ce soit les deux choses, mais je pense que on a beaucoup trop abandonné l'idée que raconter, c'est comprendre. Et c'est pour ça que j'ai fait le pari dans ce livre sur Eliot de commencer tout bêtement par trois romans, bon les trois que je préfère, et de les raconter le plus justement, évidemment, à mes yeux, le plus justement possible, parce que je crois que c'est comme ça qu'on entre dans l'univers romanesque. Et j'ai beaucoup de réticence à l'égard de cet enseignement de la littérature qui s'est si longtemps, dans les classes du secondaire, occupé des figures de rhétorique et de la chasse aux figures de rhétorique dans les récits, en oubliant l'intrigue. Or, à mes yeux, on ne peut donner quand même le goût de la littérature et de l'histoire
que par le récit. Oui, oui, nous nous acheminons progressivement, Mona Ozouf, vers votre art poétique de l'histoire.
Je sais à quel point ça peut être de toute manière critiquable. Mais au moins pour les débuts, au moins pour le goût de la lecture, par exemple, comment commencer autrement ? C'est une folie de ne pas d'abord raconter des histoires aux enfants.
Alors justement, après avoir raconté trois romans de George Eliot, vous avez un chapitre qui s'appelle « George Eliot, témoin de son temps », où vous expliquez que, justement, contrairement aux exemples, vous en parliez tout à l'heure, Mona Ozouf, des aveux du roman, où il s'agissait, au fond, de l'inscription du temps, et en particulier du temps révolutionnaire.
Oui, de la traîne
du temps révolutionnaire dans les grandes consciences, telles que le roman emportait témoignage. Là, il s'agit plutôt de la durée.
Oui.
Je me permets de vous lire. George Eliot elle-même tenait ses romans pour de l'histoire incarnée, mais pas au sens de Walter Scott, celui de l'inventaire pittoresque et chatoyant du révolu, plutôt au sens de Burke. Là, on retrouve effectivement l'historienne de la Révolution française que vous êtes. Je poursuis. Le passé vit toujours dans le présent auquel il s'est incorporé. La tradition tient bon à ses racines. Le temps qui court laisse néanmoins en arrière des choses et des mots déjà tombés en désuétude. D'autres en passent de se démoder lentement, mais irrévocablement, tandis qu'apparaissent timidement de nouveaux usages. L'ancien et le nouveau, d'une certaine manière, pourrait être le titre de n'importe quel roman de George Eliot. Et c'est votre thème d'historienne aussi, Mona Ozouf, d'une certaine manière, la question de la durée.
Oui, c'est une question d'historienne, c'est aussi une question de, probablement, là encore, de disposition mentale. Moi, je n'aime que les choses qui durent. Donc je pense que ça aussi, ça m'incline à lire et à goûter quelqu'un comme Eliot. Mais Eliot, cependant, est sensible au changement. Mais elle est sensible à la manière dont le changement incorpore les éléments du passé, qui ne tombent pas en désuétude d'un coup, mais qui se perpétuent et se transforment insensiblement, silencieusement. Et il y a quelque chose comme ça chez Eliot. Les personnages font connaissance petit à petit avec les conditions nouvelles que la vie va leur imposer. Parfois en traînant beaucoup les pieds, parfois en tâchant de suivre l'événement, parfois en tâchant de le précéder. Tous ont une relation au temps qui est tout à fait particulière. Mais les personnages positifs d'Eliot sont ceux qui savent éviter la rupture brutale et intégrer le temps passé au temps nouveau. Voilà, donc c'est vrai, ça pourrait être étendu à quelque chose de plus que les romans d'Eliot. On pourrait dire que la France est ce pays qui a fait sa révolution, qui a fait une révolution et qui pourtant a ménagé ensuite des refuges, des abris, une place pour les mœurs et les manières aristocratiques dans la démocratie. Et qu'au fond, la France est restée probablement une patrie littéraire à cause de cette capacité de transaction, parce qu'on pourrait dire qu'avec avec la fin de l'Ancien Régime s'effondrent des figures qui jusque-là tenaient le haut du pavé. Le noble, le prêtre, que sais-je, mais une des figures à résister, qui est l'homme de lettres en France. Et du coup, la preuve d'ailleurs, c'est que tout le XIXe siècle invente une nouvelle figure de saint et de prophète, qui est le poète, lisez Hugo. Donc, l'homme de lettres est ce qui a survécu à l'effondrement de l'Ancien Régime et qui fait de la France, oui, ce que j'appelle une patrie littéraire, mais qu'il est resté au-delà de la Révolution. Ce qui a duré en France, c'est cette tradition-là, à mes yeux.
Alors, c'est très singulier, Mona Ouzouf, puisque vous nous dites n'aimer que ce qui dure, et vous êtes une historienne de la Révolution française.
Oui, c'est
vous
totalement
avez même
paradoxal.
Travaillé sur la ferveur, sur la fête révolutionnaire, oui, sur la joie de la régénération. Et d'une certaine manière, tout votre art poétique est là, puisque ce que vous appelez poésie, d'ailleurs, là vous venez de, c'est ce qui sort de l'histoire, c'est ce qui, c'est un refuge. C'est, vous êtes aussi l'historienne de ces refuges-là, de ces abris-là, ce qui s'extrait de l'histoire.
Moi, je n'aime pas beaucoup le mot ce qui s'extrait de l'histoire, parce que ça décrit un acte volontaire. Patrick Boucheron, s'extraire. Je crois que c'est plutôt, la poésie est un domaine qui est plutôt un domaine ahistorique, en tout cas à mes yeux.
À préserver ? À préserver comme ahistorique ?
Ben bien sûr.
Vous faites partie de cercles de lecture poétique ?
Non. Oui, avec quelques amis, nous avons un petit cercle où nous récitons des poèmes. Voilà, mais ça n'a...
Mais pour vous, c'est à l'abri de votre activité d'historienne ?
Ah oui, 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 c'est bien sûr. C'est un goût exotique, disons. C'est dans les marges du travail historien, bien sûr.
C'est pourquoi d'ailleurs, si on vous demande quel est votre poète préféré, vous n'allez pas dire Hugo, mais Ronsard ?
Moi, j'aime énormément Ronsard, et j'aime Ronsard parce que il y a de tout dans Ronsard. C'est-à-dire qu'il y a le poète du printemps, des roses, du Val-de-Loire, et puis il y a le poète déchirant des stances sur la mort de Marie. Donc oui, j'aime beaucoup Ronsard, peut-être que mon poème préféré n'est pas dans Ronsard. Vous savez, les poètes, il faut parfois traverser des tunnels très, très, très arides pour tomber sur les deux strophes complètement éclatantes de grâce de la poésie française. Songez aux deux dernières strophes de La Maison du Berger, par exemple. Mais pour ça, il faut franchir, il faut les mériter, ces strophes-là.
Il faut les mériter, c'est une passion privée, dites-vous. Elle est, en tout cas, pas affectée par l'histoire. Vous n'auriez jamais pu écrire sur Hugo ?
Oh si, je peux écrire, enfin ça m'est arrivé du reste. Si, si, je peux écrire sur Hugo politique. Je peux écrire sur la politique dans Les Misérables, oui. Mais sur Hugo poète, je ne pourrais pas, non. Non, parce que je pense que... Bon, c'est totalement personnel, parce qu'il y a de très grands interprètes des poètes, mais pour moi, l'amour de la poésie, c'est quelque chose qui est peu explicite, ou peu explicitable. C'est de l'ordre, de l'assentiment immédiat à quelques strophes qui vous transporte ailleurs, en tout cas dans un monde qui est en effet préservé.
Donc votre poète préféré, ce n'est pas George Eliot ?
Non, non.
On peut savoir quand même, parce que si vous dites « mon poète préféré, c'est Ronsard, mais mon poème préféré n'est pas dans Ronsard », où est-il votre poème préféré ?
Je ne sais pas, je dirais Plein Champ de Cocteau, qui est, je trouve, presque pour moi indépassable. Mais si j'avais vraiment à choisir...
Mais doit-on vraiment choisir ?
Non, on n'a pas besoin de choisir, mais vous me posez la question, Patrick Boucheron, donc j'essaie de vous répondre. Mais voilà, je crois que dans la poésie, il y a une sorte d'assentiment au monde tel qu'il est là, présent, qui n'est pas de l'ordre du regard critique, qui n'est pas du tout de l'ordre du regard, pour moi, de l'ordre du regard critique, mais de l'appropriation.
Mais ce que vous avez mis dans... Ce que je me permets d'appeler votre art poétique, Mona Ouzouf, ce n'est pas que un regard critique. C'est aussi un assentiment au monde. Quand on vous lit, et pas seulement Composition française ou L'autre Georges, mais même le premier chapitre de Varenne, il y a là non seulement un récit, mais il y a là, au fond, une littérature, c'est-à-dire aussi une manière de faire... cadence avec les rythmes du monde.
Patrick Boucheron, vous touchez là à un point très épineux. Parce que ce premier chapitre de Varenne, où je raconte le voyage de la berline...
Depuis la berline.
Depuis la berline, jusqu'au point d'arrivée, c'est-à-dire jusqu'à l'arrestation à Varenne, est un chapitre que... Bon, mon ami Pierre Nora m'a dit récemment, dans un colloque, tout est faux dans ce chapitre. Et du coup, nous avons eu une petite discussion amicale, assez gaie d'ailleurs, assez drôle, où il m'a dit ce qui n'est pas faux, il m'a dit « tu as tout inventé ». Non, je n'ai pas tout inventé. C'est-à-dire que j'ai prêté... Pour moi, Varenne est quand même l'événement le plus romanesque de la Révolution française. On m'a demandé de choisir, parmi les journées révolutionnaires, une des journées qui aurait fait la France. J'ai choisi Varenne, pourquoi ? Événement, oui, littéraire. Il y a une unité de lieu, il y a l'espace de la berline, il y a presque une unité de temps, ça se passe en deux jours et demi. Tout ça est dans un espace étouffant. C'est, comme dans la vie, soumis à des accidents intempestifs, un essieu cassé, un retard de Louis XVI, que sais-je. Bref, journée absolument romanesque. Enfin, journée, je mets au pluriel, deux ou trois jours, absolument romanesque. Mais j'ai prêté dans cette berline, aux occupants de la berline, dans cet espace étroit, des rêveries personnelles. Je les leur ai prêtées. Mais je ne les ai pas prêtées tout à fait au hasard. C'est-à-dire que ce que je prête à Marie-Antoinette ou au dauphin, qui se plaint d'avoir été habillée en fille pour cette équipée malencontreuse, je prête des choses que l'on connaît. On sait ce que pensait Marie-Antoinette des déficiences de son mari. On sait ce que pensait le dauphin d'avoir été affublé d'une robe et déguisé en fille. On le sait par ailleurs. Et sur ces données, je les ai, comment dire, fictionnalisées.
Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, Mona Ozouf, et on rejoint au fond ce que vous dites à la toute fin de l'autre Georges, c'est que l'histoire laisse hors de portée ce qui est le domaine propre de la littérature, dessiner toute une géographie énigmatique, confins ignorés, lisières incertaines, contrées nocturnes, inquiétantes étendues laissées en friche. On en est là.
Oui, c'est une illustration de cela, mais... Effectivement, c'est tout à fait critiquable. Par ailleurs, je n'ai pas présenté ces rêveries de la berline comme quelque chose sur quoi je pourrais engager ma vie. C'est pas du tout ça. J'ai employé des conditionnels, j'ai employé des astuces narratives qui, à mon avis, ne trompent aucun lecteur. Aucun lecteur ne ferme ce premier chapitre en disant « Ah ben voilà, ça y est, j'ai appris ce que pensait Marie-Antoinette en franchissant telle ou telle étape du voyage ». Je crois que c'était pas du tout ça.
Cette amicale controverse sur le premier chapitre de votre Varenne, Mona Ozouf, on en trouve trace dans le beau livre paru chez Flammarion sous la direction d'Antoine Debecq et Patrick Deville, « Mona Ozouf, portrait d'une historienne ». Merci Mona Ozouf.
Merci Patrick Boucheron.
Matière à penser, Mona Ozouf, Mathieu Tourin, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Patrick Boucheron. Demain, je recevrai un poète et un spécialiste d'Aragon, Olivier Barbaran. Bonne soirée.